l'écoute de RFI, 19h ici à Paris, 18h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Et c'est l'heure du grand journal du soir. Bonsoir Adrien Delgrange.
Bonsoir à toutes et à tous.
Et à la une ce soir, l'Ukraine.
3 ans après le début de l'invasion russe en Ukraine, l'Assemblée Générale de l'ONU réaffirme son attachement à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. L'Ukraine, où de nombreux dirigeants européens sont venus à Kiev aujourd'hui apporter leur soutien à Volodymyr Zelensky. Nous serons dans la capitale ukrainienne dans un instant.
Et puis connaissez-vous la brigade Anne de Kiev, brigade de soldats formée par la France? Eh bien nos collègues du journal La Croix ont suivi des soldats dans la bataille la plus intense de la ligne de front à Pokrovsk, dans le Donbass, nous les appellerons.
Emmanuel Macron est lui à Washington. Le président français tente de convaincre Donald Trump de ne pas abandonner l'Ukraine. Au sommaire également, lendemain d'élections en Allemagne, l'AFD veut y croire. L'extrême droite espère bientôt devenir la première force politique du pays. L'actualité judiciaire en France avec le procès de Joël Le Squarnec. Au premier jour d'audience, le médecin pédocriminel reconnaît avoir commis des actes odieux. Et puis, Roberta Flack, l'une des grandes voix soul américaines, s'est éteinte aujourd'hui. Et nous y revenons dans un instant. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus.
Pendant que Donald Trump reçoit à la Maison-Blanche Emmanuel Macron, une douzaine de leaders européens sont à Kiev aujourd'hui.
Présents dans la capitale ukrainienne, alors non seulement en gage de solidarité en ce troisième triste anniversaire de guerre, mais aussi pour discuter entre eux de l'aide qu'ils peuvent proposer à Kiev et surtout les garanties de sécurité à offrir, alors que les États-Unis ont opéré un revirement de politique étrangère et s'alignent désormais sur la rhétorique du Kremlin. En ligne de Kiev pour RFI, notre correspondante Emmanuelle Chasse, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors tout d'abord, Emmanuelle, dites-nous aujourd'hui quelle était l'importance de cette visite?
Eh bien écoutez, c'est véritablement une heure de vérité pour l'Europe et pour l'Ukraine. Le réveil est rude pour Bruxelles après ce revirement de politique américain. Alors était présent lors de ce 24 février qui marque donc 3 ans de guerre, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le président du Conseil européen Antonio Costa, Justin Trudeau, le premier ministre canadien, Benjamin Haddad pour la France et nombre de leaders des pays européens. Alors, notamment le Canada s'est exprimé sur l'importance d'une unité européenne au sens large, qui comprendrait l'Occident, donc à comprendre sans les États-Unis. Cette fois, Justin Trudeau qui a parlé de se sentir en tant que Canada, en tant que pays connecté à l'Ukraine. Et il dit également que ce n'est pas seulement à propos de l'Ukraine, mais à propos des principes de souveraineté, d'indépendance, d'intégrité territoriale, des principes qui finalement protègent chaque pays du monde. Donc chacun est concerné. On a vraiment l'impression d'assister à une prise de conscience de l'Occident, donc sans les États-Unis, que cette guerre ne concerne pas seulement Kiev, mais bien l'ensemble de l'Occident.
L'Ukraine qui, par ailleurs, Emmanuel Chasse, veut 2 garanties de sécurité. D'une part, l'adhésion à l'OTAN, et puis l'adhésion à l'Union européenne. Alors dites-nous ce qu'en disent les dirigeants européens à ces sujets.
Alors, évidemment, du côté de Kiev, on a très bien compris que l'adhésion à l'OTAN, c'était dans un futur qui n'est pas encore proche. Ce n'est pas à concevoir avant qu'il y ait une paix. Et l'Union européenne, quant à elle, il y a un processus d'adhésion qui n'est pas encore complété. Donc, Volodymyr Zelensky a évoqué ces 2 garanties de sécurité qui, évidemment, apporteraient à l'Ukraine une assurance que ses alliés viendraient à son secours. Mais Ursula von der Leyen a quant à elle temporisé lorsque d'autres leaders, notamment ceux des Pays-Baltes, ont parlé d'accélération des processus d'accession à l'Union européenne. Elle a expliqué que si c'était le cas pour l'Ukraine, par exemple, en lui donnant une date d'accession à l'Union européenne, eh bien, cela créerait un précédent pour d'autres pays candidats. La présidente de la Commission européenne a toutefois souligné la vitesse à laquelle l'Ukraine s'était pliée au cahier des charges de Bruxelles en termes de réforme, quelque chose qu'a également souligné Antonio Costa, le président du Conseil européen, qui, lui, a également appelé les États membres de l'Union européenne à eux aussi procéder à des réformes pour accélérer ce processus d'adhésion et ainsi ainsi offrir cette garantie de sécurité à l'Ukraine.
Merci Emmanuel. Emmanuel Chaz en direct de Kiev pour RFI.
Emmanuel Macron lui est arrivé ce lundi à la Maison Blanche.
Le président français s'entretient avec son homologue américain Donald Trump. Guillaume Nodin, vous êtes à Washington pour RFI. Guillaume, il est notamment question de la guerre en Ukraine après le revirement opéré par le dirigeant américain en faveur de la Russie.
Oui, c'est ce qui est au menu de cette discussion entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Le président américain, il y a quelques instants, a accueilli le président français sur le parvis à la sortie de l'aile ouest, hein, de la West Wing de la Maison Blanche, là où siège, où se concentre le pouvoir américain. Et ils ont ensuite été vers le bureau ovale où ils ont parlé pendant quelques temps, et notamment évidemment de l'Ukraine avec Emmanuel Macron qui expliquait qu'il voulait une paix durable en Ukraine, tandis que Donald Trump, lui, expliquait que bien sa négociation avec le président Volodymyr Zelensky pour qu'il cède une partie des minerais et des terres rares qui sont en Ukraine allait bon train. Les deux hommes ont prévu de déjeuner ensemble, puis de continuer leur discussion avant une conférence de presse où Emmanuel Macron a expliqué qu'il allait essayer de faire entendre le point de vue européen. Vous savez qu'il explique depuis plusieurs jours qu'il est un des dirigeants européens et même des dirigeants mondiaux qui a l'expérience de Donald Trump, l'expérience de sa personnalité, ça remonte à leur premier mandat à tous les deux, et il va essayer de convaincre Donald Trump de ne pas totalement abandonner l'Ukraine. Dans le bureau ovale, devant les journalistes, les deux hommes ont également parlé des droits de douane, et Donald Trump est revenu sur l'idée de droits de douane réciproques en expliquant que tout ça était normal. Donc pas mal de sujets de discussion aujourd'hui entre les deux hommes ici à la Maison Blanche.
Emmanuel Macron, défenseur de l'Ukraine et de l'Europe. Merci Guillaume Nodin. La Pologne, très investie dans ce soutien avec l'Ukraine, où de nombreux Ukrainiens ont fui la guerre. Ils vivent désormais en Pologne. Nous retrouvons en direct de Varsovie Adrien Sarla, correspondant d'RFI en Pologne. Adrien, plusieurs centaines de personnes sont réunies devant l'ambassade d'Ukraine à Varsovie.
Oui, c'est ça, plusieurs centaines de personnes et surtout des drapeaux ukrainiens à perte de vue. On se dirige actuellement vers le Parlement polonais, mais dans la foule, il est bien difficile d'entendre justement parler polonais, puisque ce sont surtout la communauté ukrainienne de Varsovie qui a fait le déplacement aujourd'hui. Un moyen pour eux, bien sûr, de remercier la Pologne qui les a accueillis à bras ouverts ces trois dernières années. Mais impossible de s'y tromper, lorsqu'on regarde la foule, eh bien, elle est beaucoup moins compacte que l'an dernier à la même date, car ces derniers temps, une certaine fatigue a commencé à naître chez les Polonais vis-à-vis des réfugiés ukrainiens. Ils sont de plus en plus souvent accusés d'être notamment une charge économique pour le pays. Mais dans l'ensemble, Varsovie ce soir se montre quand même solidaire avec ses voisins, solidaire par les armes, a-t-on même entendu parmi les slogans. Car avec les derniers développements de la gestion du conflit par Trump, les Polonais sont de plus en plus inquiets concernant l'issue que pourrait prendre ce conflit. Et j'ai notamment pu parler à un père de famille qui portait l'un des rares drapeaux blanc et rouge ce soir. Lui me dit qu'il est encore temps pour les Européens de se préparer à la guerre, de se réveiller. Il sait pourtant que si l'Europe entrait en conflit avec la Russie, eh bien, il risquerait d'y perdre son fils en âge d'être mobilisé.
Adrien Sarla, Varsovie pour RFI. Enfin, dans ce dossier, 3 ans après l'invasion russe, l'Assemblée générale de l'ONU réaffirme aujourd'hui son attachement à l'intégralité territoriale de l'Ukraine, et ce sans le soutien de Washington, qui a échoué à faire passer un texte concurrent, se contentant de demander une paix rapide sans autre condition.
Allez, l'Allemagne à présent, au lendemain des élections législatives, Adrien Delgrange, qui débouche sur une alternance suite à la défaite cinglante du chancelier Olaf Scholz et du SPD.
Le parti sera dirigé à l'avenir par le chrétien démocrate Friedrich Merz. Après une victoire en demi-teinte de son parti, le grand gagnant de l'élection d'hier, c'est aussi l'extrême droite allemande, arrivée en deuxième position avec plus de 20%. L'AfD qui double son score en 3 ans, Alice Wiedel, sa présidente, pour elle, l'avenir est en marche.
L'AfD a enregistré une victoire historique. Nous avons obtenu notre meilleur score depuis notre création et nous nous en réjouissons. Nous avons doublé notre résultat en 3 ans. Nous sommes la deuxième force du pays derrière les chrétiens démocrates. Nous sommes prêts à accéder aux responsabilités. Il y a une forte majorité pour l'AfD et la CDU. Les électeurs souhaitent un gouvernement de droite. et nous allons passer devant la CDU durant les 4 ans qui viennent. Cela va aller très vite. Les électeurs veulent un changement politique et nous allons le permettre. Nous allons remettre ce pays sur les rails car personne d'autre ne le fera.
La présidente de l'AFD, propos recueillis par notre correspondant à Berlin, Pascal Thibault.
Et puis l'actualité sur le continent africain ce lundi.
Où la pression internationale s'intensifie sur le Rwanda, accusé de soutenir le M23 dont l'offensive se poursuit dans l'est de la RDC. Alors selon nos informations, la France a suspendu tous les nouveaux projets de développement prévus avec Kigali, notamment 2 accords qui devaient être signés, dont un concerne l'Agence française de développement, l'AFD, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Toujours selon les mêmes sources, Paris est également favorable à des sanctions graduelles contre le Rwanda, tant au sein des Nations Unies que de l'Union Européenne.
Et puis après cette question, après l'ère de la démocratie, sommes-nous rentrés dans l'ère de la dictature ?
Et la question, Romain, est loin d'être farfelue. La preuve, elle agite jusqu'au plus haut responsable de l'ONU. Son patron, Antonio Guterres, dénonce ce matin les attaques vicieuses des prêcheurs de haine contre les droits humains au moment d'ouvrir le Conseil des droits de l'homme. Le Conseil des droits de l'homme, un organe lui-même menacé depuis que Donald Trump en a claqué la porte. RFI Genève, Jérémy Lanche.
Entre l'invasion de l'Ukraine, la guerre au Soudan, le massacre du 7 octobre et la guerre qui a suivi, c'est peu dire que l'ambiance ces dernières années n'est pas au triomphalisme au Conseil des droits de l'homme. Mais cette fois encore, l'inquiétude est montée d'un cran, comme l'a exprimé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.
One by one, human rights are being suffocated.
Les uns après les autres, les droits humains sont asphyxiés par les autocrates, par les va-t-en-guerre qui se moquent du droit international, par les technologies incontrôlables comme l'intelligence artificielle qui suscite de grands espoirs mais peuvent aussi violer les droits humains en un seul clic.
Aucun dirigeant n'est bien sûr visé nommément, on reste entre diplomates, mais tout le monde a bien en tête les noms de Donald Trump, Vladimir Poutine ou même Elon Musk. Le haut commissaire aux droits de l'homme, Volker Türk, va même encore plus loin dans la mise en garde.
Le consensus général sur les droits de l'homme s'effondre sous le poids des autocrates, des hommes forts et des oligarques. Dans les siècles précédents, les dictateurs pouvaient envoyer un grand nombre de personnes à la mort. Faites attention, ça peut se reproduire.
Be aware, this can happen again.
Un Conseil des droits de l'homme assiégé par des dictateurs accomplis ou en puissance. Les diplomates ont 6 semaines, non pas pour inverser la tendance, ce serait trop court, mais au moins leur porter la contradiction. Jérémy Lanche, Genève, RFI.
Dans l'actualité française, en déplacement en Nouvelle-Calédonie, le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, a présenté aujourd'hui sa méthode et ses principes pour relancer le dialogue entre indépendantistes et non-indépendantistes avant des négociations sur l'avenir institutionnel du territoire qui doivent débuter mercredi. Pour Manuel Valls, c'est déjà un premier succès en organisant une plénière de restitution aujourd'hui au Congrès de Nouvelle-Calédonie. Manuel Valls a réussi à rassembler autour d'une même table l'ensemble des forces politiques du territoire.
Et puis également en France, c'est un procès retentissant qui s'est ouvert ce lundi à Vannes, dans l'ouest de la France, le procès de Joël Lescouarnec.
Cet ancien chirurgien est accusé d'avoir violé et agressé sexuellement près de 300 patients, en majorité mineurs, et ce dans plusieurs hôpitaux de France où il a exercé. Des victimes souvent sous anesthésie qui bien souvent n'ont pas souvenir des faits. Bonsoir Baptiste Coulon.
Bonsoir.
Nous vous retrouvons en direct de la cour criminelle du Morbihan à Vannes. Vous avez suivi cette première audience marquée, Baptiste, par les premiers mots de l'accusé.
Si je comparais devant vous, c'est parce que j'ai commis des actes odieux dont je dois assumer la responsabilité. C'est d'une voix posée, presque sourde, que Joël Lescouarnec livre ses premiers mots à la cour. Veste noire, lunettes rectangulaires, cheveux blancs, il était apparu le visage fermé à l'ouverture de l'audience ce midi, mais l'un de ses avocats avait prévenu quelques minutes plus tôt, l'accusé ne cherche pas à se défausser de ses responsabilités. À 300 mètres de la salle d'audience, trop petite pour toutes les accueillir, les victimes observent l'accusé sur un écran dans un amphithéâtre. Certaines se tiennent la tête entre leurs mains. Les bancs sont clairsemés, toutes ne sont pas là. Que valent ces premiers mots de l'accusé ? C'est la question. Sur le fond, ils ne sont pas si différents de ceux qu'il avait eus face aux enquêteurs. Mais à l'époque, les psychiatres notamment avaient douté de la sincérité de ses remords, qualifiant Joël Lescouarnec de pervers narcissique sans compassion à l'égard des victimes. Alors prudence et humilité, c'est le mot choisi par l'avocat général dans sa prise de parole au aux aires de mise au point à l'ouverture des débats aujourd'hui. Nous jugeons un homme, mais ce procès est avant tout adressé aux victimes.
Merci beaucoup Baptiste Coulon pour toutes ces précisions en direct de la cour criminelle du Morbihan. L'actualité française, Gérard Depardieu visé depuis février 2024 par une enquête pour fraude fiscale aggravée et blanchiment. Il est soupçonné de s'être fictivement domicilié en Belgique à partir de 2013, selon des sources proches du dossier judiciaire confirmé par une information de Mediapart. Je vous en parlais dans les titres, la mort de Roberta Flack. Elle est décédée à l'âge de 88 ans. C'était l'une des grandes voix de la soul américaine qui s'est éteinte aujourd'hui.
Eh bien merci Adrien Delgrange. C'était le grand journal du soir sur Radio France Internationale. Il est 19h15, ici à Paris.
RFI Soir. Romain Ozoui.
Et donc c'est le grand titre évidemment ce soir, hein. Officiellement nous sommes entrés, le monde est entré dans la quatrième année de la guerre en Ukraine. Nous appellerons nos collègues du journal La Croix qui propose une immersion au sein de la brigade Anne de Kiev. C'est une brigade de soldats formée par la France et impliquée actuellement dans la bataille la plus intense de la ligne de front, à savoir à Pokrovsk dans le Donbass. Et puis en France, on en a parlé dans le grand journal du soir, les premiers mots ce lundi devant la cour criminelle du Morbihan de Joël Le Squardec. J'ai commis des actes odieux, affirme cet ancien chirurgien accusé de viol et d'agression sexuelle sur 300 jeunes patients. C'est la plus grande affaire pédocriminelle jamais jugée en France et nous irons justement à Vannes où de nombreux faits se sont produits. Pour l'heure, voici les sports sur RFI. Avec Babacar Diarra. Bonsoir Babacar.
Bonsoir Romain.
Allez, le foot pour commencer et son mea culpa qui n'a pas suffi. Le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, va devoir rendre des comptes devant la commission de discipline de la Ligue de football professionnel.
Au piqué, après sa colère noire de samedi soir, le dirigeant de l'OM avait explosé dans les couloirs du stade de l'Abbé Deschamps, lâchant le mot corruption suite au carton rouge de l'un de ses joueurs. Longoria a certes rétro-pédalé ce matin, mais il devra s'expliquer mercredi devant la commission de discipline. Entre-temps, hier, les arbitres de Ligue 1 ont saisi, via leur syndicat, le comité national d'éthique pour soutenir Jérémy Stina, l'arbitre du match perdu 3-0 par Marseille à Auxerre, attaqué par ailleurs personnellement. Ce contexte chaotique ne donne pas une belle image du football français et suscite le débat des suiveurs, à l'image de Dominique Sévrac dans Radio Foot International cet après-midi.
Au moment où il y a tellement de problèmes dans le football français, notamment avec les droits télé, c'est scandaleux. Alors, dans une interview à l'agence France Presse aujourd'hui, il a corrigé le mot corruption parce qu'il essaye de commencer à alléger la peine en disant pardon pour le mot corruption. Mais tout le reste, c'est scandaleux, c'est inadmissible, c'est une image absolument folle du football français. Quand ils s'engueulent pas dans les coulisses, ils s'engueulent devant les caméras de DAZN en disant championnat de merde. Bah pardon, vous l'avez bippé, mais championnat de merde alors qu'il faut justement, ils ont tellement de mal à le vendre, tellement de mal à trouver de l'argent. Bah si le président de l'OM, qui est le club le plus puissant que le Paris Saint-Germain,
et qui fait partie lui de la commission pour les droits télé. Hein. Voilà, faut pas l'oublier.
Lui dit que c'est un championnat qui est nul, qui est corrompu. C'est un très mauvais polar, vraiment le scénario est nul quoi.
L'échange entre Dominique Sévrac et Hervé Penaud dans Radio Foot International.
En basket, l'équipe de France qui termine sa campagne de qualification à l'Eurobasket ce soir à Orléans avec l'ambition de finaliser son carton plein.
Les Bleus ont assuré leur qualification vendredi soir en s'imposant en Croatie. Aujourd'hui, devant le public de la Comète d'Orléans, l'objectif sera donc de remporter une sixième victoire en six matchs, histoire de renforcer la place des tricolores dans le top 4 mondial. Pour les basketteurs sélectionnés dans cette fenêtre internationale à deux matchs, il y a aussi des places à prendre en vue de l'Eurobasket de cet été, en l'absence évidemment de leurs confrères engagés au NBA. Il y en a un qui avait sa place assurée d'office, c'est évidemment Victor Wembanyama, désormais incertain après la découverte d'une thrombose veineuse dans son épaule. Le coup d'arrêt du pivot des San Antonio Spurs a forcément pris de court le sélectionneur de l'équipe de France, Frédéric Fautou.
C'est jamais des bonnes nouvelles, que ce soit Victor ou un autre d'ailleurs. Parce que tous les joueurs qui apportent des grosses plus-values à l'équipe de France et ceux qui peuvent être potentiellement de toute façon sélectionnés en équipe de France, ce sont jamais des bonnes nouvelles que l'on apprend. Et d'abord on est triste. En tout cas on se met à la place surtout du joueur qui est lui par contre est aujourd'hui le plus triste sûrement. Donc voilà, c'est Pour lui, c'est dommage. Pour nous, pour l'équipe de France, on verra. On ne l'a pas encore eu personnellement, je n'ai pas encore eu au téléphone, donc je ne sais pas exactement de combien de temps il sera arrêté. Et on discutera avec toutes les personnes concernées sur une éventuelle venue pour cet été ou pas.
Fred Fautou, sélectionneur de l'équipe de France de basket avant son match face à la Bosnie-Herzégovine à Orléans à 21h10, heure de Paris.
Et pour l'heure, il est 19h, bientôt 20 minutes ici à Paris. C'était le journal des sports de Babacar Diarra, 20h20 à Kiev. L'Ukraine à la une de l'actualité en ce lundi, 3 ans après l'invasion russe du pays. Les rendez-vous diplomatiques se multiplient aujourd'hui avec notamment un sommet à Kiev autour du président Volodymyr Zelensky et en présence d'une vingtaine de dirigeants étrangers. Tout cela dans le contexte d'une pression de l'administration Trump en faveur d'une solution directement avec la Russie. Bonsoir Pierre Sautreuil.
Bonsoir.
Journaliste au service Monde du journal La Croix, dans le cadre de cette date anniversaire du 24 février, vous publiez un reportage qui sera retrouvé dans votre édition de mardi, également sur le site internet, reportage auprès de soldats engagés dans, vous l'écrivez vous-même, la bataille la plus intense de la ligne de front. Elle se situe à Pokrovsk, dans le Donbass, et ces soldats qui participent à ces combats appartiennent à Anne de Kiev. C'est un nom qui sonne bien français et pour cause. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la brigade Anne de Kiev ?
Tout à fait. Alors, la brigade Anne de Kiev, son autre nom, c'est la 155e brigade de l'armée ukrainienne. Elle a été formée et équipée par la France à l'automne 2024, compte plusieurs milliers d'hommes, et elle porte le nom de Anne de Kiev, c'est-à-dire une princesse venue de Kiev qui était la femme du roi des Francs, Henri Ier, et mère de son successeur, Philippe Ier. Et la petite histoire veut qu'elle aurait appris aux Français du XIe siècle à se laver plus souvent et à se servir de couvert à table.
Combien y a-t-il d'hommes dans cette brigade Anne de Kiev qui combat actuellement à Pokrovsk ?
Alors ça, c'est tout le problème. C'est-à-dire qu'une brigade compte en moyenne 4-5 000 hommes. Le problème, c'est que la brigade de Kiev est devenue surtout célèbre ces derniers mois du fait de déboires qui ont marqué son déploiement en Ukraine. C'est que près de 1700 soldats de cette brigade se seraient volatilisés dans la nature, d'après un journaliste ukrainien. Donc l'affaire avait fait le tour du monde en janvier. Et il s'avère qu'en fait, cette histoire était assez emblématique de problèmes de gestion des ressources humaines dans l'armée ukrainienne.
Et aujourd'hui, on estime à combien d'hommes de cette brigade Anne de Kiev qui se trouve sur la ligne de front ?
C'est difficile à dire. En fait, la brigade en elle-même a été divisée, redispatchée parmi plusieurs unités. Là encore, c'est quelque chose qui illustre le problème de gestion des ressources humaines dans l'armée ukrainienne parce qu'ils ont énormément de pertes. Il y a des défections et donc il arrive que les brigades soient démantibulées en partie et que ces hommes soient redispatchés en divers endroits du front où les besoins se font les plus pressants.
En tout cas, votre envoyé spécial a suivi plusieurs hommes. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui émerge de ce reportage de ces hommes qui ont été suivis à Pokrovsk et qui appartiennent à cette brigade Anne de Kiev, donc formée par les Français ?
Alors, ce qui ressort le plus de ce qu'a pu observer notre envoyé spécial, Laurent Larcher, c'est une guerre d'artillerie. Ça, on le connaît, c'est que la guerre dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine, est une guerre de tranchées où les positions évoluent peu. On sait que l'armée russe avance plus vite ces derniers temps, mais ces avances restent lentes et se coûtent très cher en hommes et en matériel. Et là, il a pu observer la manière dont travaille une batterie de 4 canons César, donc des canons français, fourni par la France à cette brigade. Et particulièrement, il a pu observer un épisode qui est typique de cette guerre d'artillerie de tranchées, c'est-à-dire le tir de contre-batterie. C'est un échange à mort, en fait, où des batteries d'artillerie vont s'affronter, on calcule, on recalcule les tirs pour frapper le canon adverse, et à la fin, il doit n'en rester qu'un. Et là, en l'occurrence, la batterie ukrainienne a réussi à détruire la batterie russe.
Ce sont des choses qui sont suivies par ordinateur interposé. C'est là où se trouvait, d'ailleurs, votre envoyé spécial.
Oui, en fait, il y a des postes de commandement où des officiers, des sous-officiers reçoivent du flux de vidéos fournis par des drones qui survolent en permanence la zone des combats. Et c'est grâce à ces drones qu'ils parviennent à calculer où se trouve la batterie adverse et ensuite à ajuster leur tir. Ces drones sont aujourd'hui une composante absolument essentielle du dispositif militaire russe comme ukrainien.
À quel point la formation de la France pour ces soldats de la brigade Anne de Kiev a été déterminante? Il y a des témoignages qui racontent comment ces formations sur le sol français se sont passées pour ces soldats ukrainiens.
Alors, ce qu'ils disent beaucoup, c'est que nous, on connaît la pratique, mais les Français nous ont appris la technique. Et donc, voilà, typiquement, manifestement, le tir de contre-batterie et laisser venir l'adversaire, c'est quelque chose qu'ils auraient pu étudier à la base champenoise de Mourmelon, où ils ont passé du temps cet automne pour s'entraîner. Voilà, ils disent, nous, on recule, eux, ils avancent, on les laisse s'installer, on les bombarde. Certains font l'analogie avec la boxe, c'est on rompt pour mieux frapper. Et ils disent, voilà, les Français nous ont appris la technique, mais ce qui revient de beaucoup de sessions d'entraînement, pas seulement celle-ci, mais même les précédentes, c'est que il y a l'enseignement d'un savoir théorique qui est aussi appuyé sur l'expérience des soldats français, des soldats anglais, etc. Mais que l'expérience des combats en Ukraine est quelque chose de singulier, que là, les Ukrainiens doivent s'adapter très vite aux conditions d'une guerre que la France n'a pas menée depuis des décennies.
En tout cas, voilà une illustration du soutien français dans l'aide occidentale, évidemment, à l'Ukraine. Ça, c'est la guerre, je cite, hein, témoignage au front avec la brigade Anne de Kiev, c'est le titre de ce reportage, donc à retrouver ce mardi dans La Croix et sur votre site internet. Merci Pierre Sautreuil.
Merci à vous.
En France, le rideau s'est levé sur ce qui est considéré comme la plus grande affaire pédocriminelle jamais jugée dans le pays, le procès de Joël Le Skouarnec devant la cour criminelle du Morbihan à Vannes, dans l'ouest de la France. Joël Le Skouarnec, ancien chirurgien, accusé de viol et d'agression sexuelle sur 300 jeunes patients en majorité mineurs qui étaient entre 1989 et 2014 eh bien hospitalisés dans son établissement. « J'ai commis des actes odieux », ça c'est sa première déclaration lors de la première journée de ce procès. L'homme dit assumer la responsabilité de ses actes. La violence des faits s'ajoute à celle d'une procédure judiciaire éprouvante, de la découverte des faits jusqu'à l'organisation du procès qui s'est ouvert ce lundi. C'est un reportage de Baptiste Coulon.
Des victimes sous anesthésie, d'autres parfaitement conscientes au moment des faits. Leur point commun, le refoulement, l'absence de souvenirs ou seulement quelques bribes, mais une vie d'adulte tourmentée.
Avec effectivement des impacts du style dépression nerveuse, anorexie, des troubles sexuels.
Francesca Sata est l'avocate d'une dizaine de parties civiles.
Vous voyez, ce sont des réminiscences de choses qui reviennent à la surface et qui ont permis effectivement de révéler un peu plus avant ce qu'elles avaient pu subir.
Ce que certaines victimes ont subi, c'est une amnésie traumatique, un trouble de la mémoire bien connu des psychologues et de Laura Morin, directrice de l'association L'Enfant Bleu qui s'est constituée partie civile.
Un traumatisme vécu enfant va avoir un impact sur toute sa vie d'adulte, puisque même s'il n'y a pas forcément de souvenirs, en tout cas le corps, lui, s'en souvient.
L'association a reçu des victimes de Joël Le Skouarnec et les a accompagnés avec des psychologues. Les psychologues, c'est en revanche ce qui a fait défaut au tout début de la procédure, quand ce sont les gendarmes qui apprennent aux victimes que leur prénom figure dans les carnets intimes du chirurgien.
La violence institutionnelle est une violence qui s'est ajoutée à ce qu'ils ont subi.
Marie Grimaud défend une quarantaine de parties civiles.
Ça a été une annonce extrêmement brutale. Moi, j'ai des clients qui me racontent se retrouver à gare dans un état de sidération sur le trottoir, seuls, ne sachant comment exposer ça à leurs proches. Et c'est le début d'un chemin d'errance et d'abandon complet.
Dans une tribune il y a quelques jours, les victimes représentées par Marie Grimaud s'insurgent de la longueur de l'instruction, de l'attente interminable, de la forte médiatisation de l'affaire.
Des clients qui ont retrouvé des journalistes dans leur jardin.
Une violence institutionnelle pour l'avocate jusqu'à l'organisation du procès. Une organisation complexe pour le petit tribunal de Vannes qui n'a eu d'autre choix que de louer une annexe à 300 mètres de la salle d'audience pour accueillir toutes les victimes.
C'est les rendre invisibles aux yeux de la cour, c'est les rendre invisibles aux yeux de monsieur Le Skouarnec et de ses avocats. Cette violence-là, elle est inacceptable.
L'avocate en est persuadée, plusieurs de ses clients sont découragés à l'idée de témoigner à la barre.
3-4 appels par semaine, maître, je n'y arriverai pas. Je ne me sens pas à ma place, je ne me sens pas légitime. C'est la première fois que j'ai autant à discuter avec mes clients sur le point de leur légitimité.
Qu'elles se sentent légitimes ou non, un procès s'ouvre pour que toutes les victimes referment le chapitre Le Skouarnec.
Baptiste Coulon sur RFI est resté à l'écoute. Dans une minute, ce sera la première édition d'Afrique Soir et à la une, l'Union Européenne qui s'entend pour de premières sanctions contre le Rwanda pour son soutien au M23 dans son offensive dans l'est de la RDC. On revient dans une minute.
Appelez-nous, exprimez-vous.
Juan Gomez.
Tous les jours à 8h10 TU, la rédaction de RFI répond à vos questions. Vous souhaitez un complément d'information pour mieux comprendre et décrypter l'actualité? Rejoignez-nous dès maintenant sur notre page Facebook RFI Appel sur l'actualité et sur WhatsApp 33 6 89 28 53 64.
Retrouvez dès demain Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI.
Bonjour, je suis Dougal Kemp. J'ai participé au concours RFI Instrumental l'année dernière. Et ce que vous entendez en fond, c'est la musique qui m'a permis de gagner le premier prix. L'édition 2025 est lancée. C'est à votre tour de jouer.
RFI invite les monteurs et les compositeurs du monde entier à participer à la 9e édition du prix RFI Instrumental. Inscrivez-vous avant le 21 mars sur